Eh bien, je redonne la parole tout de suite à Nathalie Rossi pour la suite de son exposé.
Finalement, les seuls domaines où ces brigands, aux intérêts concurrents, s'entendent sans discussion, sont bien ceux qui visent à permettre une plus grande exploitation. De ce point de vue, la législation sociale européenne cherche à niveler vers le bas tout ce qui peut l'être. Les directives sociales européennes vont toutes dans le sens d'aggraver l'exploitation et les conditions de vie des travailleurs. Les institutions européennes permettent une assez grande souplesse d'application de ces directives, dont le calendrier de mise en œuvre reste, par exemple, entre les mains des États nationaux. Faut-il préciser que les gouvernements nationaux, qui n'attendent pas le feu vert européen pour appliquer la politique de combat contre les travailleurs voulue par la bourgeoisie, s'empressent en général de se saisir de ces directives, d'autant qu'elles leur permettent de justifier des mesures anti-ouvrières, d'incommodes, c'est la réglementation européenne qui nous y oblige. Exemple avec la directive Bolkestein, qui a soulevé une tempête d'opposition, notamment de la part des syndicats, mais aussi du Parti communiste français et dans une partie de l'extrême gauche. Elle établit la libre concurrence des services sur le territoire de l'Union européenne et entraîne la possibilité, pour les patrons des pays de l'Union, de traiter les salariés des entreprises prestataires de services aux conditions de travail et de salaire des pays d'origine, c'est-à-dire aux conditions les plus mauvaises pour les travailleurs. En France, les syndicats avaient appelé à juste titre à manifester lors du vote de cette directive qui revient à dégrader les conditions de rémunération et de travail de l'ensemble des travailleurs européens. Mais s'il faut bien sûr combattre de telles directives, ce n'est certainement pas en dénonçant les directives imposées par Bruxelles ou, pire encore, la liberté de circulation des travailleurs des autres pays et en particulier de ceux les plus pauvres des pays de l'Union européenne. À l'époque, la polémique avait fait rage sur les plombiers polonais prêts à envahir la France. Plus récemment, ce sont les travailleurs détachés et leur utilisation par de grandes entreprises ici en France en payant les charges sociales de leur pays d'origine qui a fait couler beaucoup d'encre. En France, le patronat n'avait pas attendu le vote de la directive Bolkestein en novembre 2006 pour faire appel à des entreprises sous-traitantes étrangères, et d'ailleurs pas seulement européennes, et en exploiter les travailleurs, non seulement en ne payant que les charges sociales très faibles du pays d'origine, mais en profitant aussi de l'occasion pour payer des salaires bien inférieurs au minimum français. Et il ne s'agit pas d'obscures petites entreprises, des chantiers de l'Atlantique à la centrale d'EDF de Porcheville, en passant par l'entreprise de transport d'Entresangles, les exemples ne manquent pas. Partout dans le monde, la bourgeoisie n'a accordé des droits sociaux, des salaires plus élevés, de meilleures conditions de vie aux travailleurs que parce qu'ils se battaient pour les obtenir, que lorsque la classe ouvrière réussissait à imposer un rapport de force qui lui soit favorable. Et de tout temps, l'une des armes de la bourgeoisie pour faire baisser les salaires et pour détourner les luttes des travailleurs, eh bien ça a été de les mettre en concurrence les uns contre les autres. Femmes contre hommes, travailleurs immigrés contre travailleurs du pays, embauchés contre précaires, services publics contre privés, ceux qui ont un travail contre ceux qui n'en ont pas, et travailleurs des pays à bas salaire contre ceux au salaire plus élevé. Vis-à-vis des travailleurs détachés provenant des autres pays de l'Union européenne, comme dans tous les autres cas où la bourgeoisie tente de mettre les travailleurs en concurrence les uns contre les autres, c'est en faisant front commun que la classe ouvrière peut obtenir les conditions les plus avantageuses pour tous. Alors, le fait que les travailleurs d'autres pays de l'Union européenne puissent être détachés dans les pays riches, que la bourgeoisie utilise aujourd'hui pour aggraver l'exploitation de tous, elle se retournera contre elle. Lorsque le mouvement ouvrier renaîtra avec ses propres objectifs, il transformera les connexions entre tous les travailleurs d'Europe et le nombre qu'ils représentent en une force, une arme pour se battre dans toute l'Europe contre un exploiteur commun et pour les objectifs qui sont ceux de l'ensemble de la classe ouvrière. Bien des travailleurs ont cependant le sentiment que l'Union européenne est responsable des politiques et des décisions qui les écrasent, qu'ils ont perdu en pouvoir d'achat depuis que l'euro a remplacé le franc, etc. Les partis réformistes ont une grande part de responsabilité dans cette désorientation politique. Voir l'extrême droite agiter les idées les plus réactionnaires, clamer que le rétablissement des frontières sauverait les emplois en empêchant la concurrence des travailleurs immigrés, réclamer le protectionnisme au nom de la lutte contre les délocalisations et la sortie de l'euro au nom de la souveraineté nationale n'est pas surprenant. C'est le fond de commerce de ce parti anti-ouvrier. La version gouvernementale à la sauce Montebourg du patriotisme économique n'est pas non plus étonnante. Tout au plus est-il plus ridicule lors de ces séances de pause en marinière bretonne garantie française, du moins si l'on ne cherche pas trop la petite bête en regardant d'où viennent les matières premières, la source d'énergie permettant d'éclairer les ateliers, les machines et tous leurs composants. Parce que même en cherchant bien, Montebourg aurait bien du mal à trouver un produit 100% français, tellement l'économie capitaliste a dépassé et depuis bien longtemps ce stade national. Mais ce qui est bien plus grave pour la classe ouvrière, c'est que des partis se réclamant de la défense de ses intérêts reprennent ce type d'argument. Au parti de gauche, on se réclame d'une autre Europe, respectueuse des peuples et de leurs droits démocratiques. Cela n'empêche pas Mélenchon de faire des discours au chauvinisme lamentable. Ainsi, dans une interview télévisée où il était interrogé sur la crise de l'Europe, je le cite, « Madame Merkel ne me fait pas peur. D'abord, je considère que la France est une grande puissance. On ne peut pas continuer avec cet euro-là. Nous allons mourir. Moi, je dis à Madame Merkel, vous, vous êtes une population vieillissante. Donc, vous avez besoin d'un euro fort pour toucher des dividendes et payer vos retraites par capitalisation. Nous, on est un peuple jeune. On a besoin d'équipements publics. On a besoin de beaucoup d'investissements parce qu'on est un très grand pays. Pas seulement au sens idéologique, au sens physique aussi. Et là, quand même, le meilleur, le territoire français, la mer incluse, ça fait de nous le deuxième pays du monde. Les gens ne le savent pas. Et effectivement, les gens ne le savent pas. Alors, outre le ridicule de ces cocoricos sur la grandeur de la France, voilà comment Mélenchon présente le débat entre l'Allemagne et la France sur l'euro, qui concerne en réalité les intérêts des bourgeoisies allemandes et françaises, l'une voyant ses exportations moins lésées que celles de l'autre par un euro fort. Il explique, Mélenchon, aux travailleurs qu'il est de leur intérêt, pour avoir des équipements publics, de soutenir leur bourgeoisie nationale. Mais du point de vue du nationalisme façon battleur de foire, Mélenchon a de la concurrence. De l'autre côté des Alpes, Beppe Grillo, à la tête du mouvement 5 étoiles qui se proclame au-dessus des partis politiques, s'est ainsi exclamé lors d'un meeting en vue des futures élections européennes, je le cite, « Quand je serai élu, j'irai lui parler, moi, à la Merkel, yeux dans les yeux, et elle verra ce que c'est qu'un Italien. » Entre ces deux guignols, dont je rappelle qu'un seul a été comique de profession, la bourgeoisie allemande et sa représentante doivent trembler. Alors il y aurait de quoi rire si le nationalisme contenu dans ces gesticulations ne représentait pas un tel poison, un tel recul dans les consciences des travailleurs. Le PCF n'est pas en reste sur le terrain du nationalisme. En 1979, lors des premières élections de députés pour le Parlement européen, le Parti communiste mena une véritable campagne nationaliste. Fitterman, l'un de ses dirigeants de l'époque, définissait ainsi la position du Parti communiste. Je le cite. « Nous nous opposons catégoriquement à l'idéologie bourgeoise et social-démocrate sur le dépassement du cadre étroit de chaque nation. Notre orientation est donc claire. Nous combattons sans ambiguïté la politique d'intégration européenne de Giscard et des dirigeants actuels de la CEE qui accentue la régression sociale et amputerait le patrimoine national. » La politique de l'Europe n'allait pas plus dans le sens des intérêts sociaux des travailleurs et de l'ensemble de la population à l'époque qu'aujourd'hui. Mais en quoi le cadre étroit de chaque nation défendu par le PCF le permettait-il davantage ? Le Parti communiste trompait les travailleurs en leur laissant entendre qu'ils partageaient un patrimoine national avec la bourgeoisie française. En défendant le cadre de chaque nation, le Parti communiste nourrissait l'idée que la nation française protégeait les travailleurs ou du moins leur permettait de se défendre. Cette trahison des intérêts de classe des travailleurs, elle ne date pas de la naissance de l'Europe, mais de la stalinisation du Parti communiste. En faisant se côtoyer la Marseillaise et l'Internationale, le drapeau tricolore et le drapeau rouge, le Parti communiste démontrait, au niveau symbolique, l'abandon de l'internationalisme prolétarien, en même temps qu'il sombrait dans le réformisme le plus plat. Il remplaça l'idée fondamentale que l'émancipation du prolétariat ne pouvait être que le résultat du renversement de l'ordre économique et social capitaliste à l'échelle mondiale par une vague notion de solidarité morale entre les opprimés du monde entier que l'on pouvait ressortir dans les proclamations des jours de fête, sans hésiter à mettre en avant le reste du temps la grandeur de la nation française et autres slogans du genre « produisons français ». En agitant des revendications telles la récente exigence d'un plan de développement de l'industrie française, le Parti communiste laisse croire qu'il serait possible d'inciter ou de contraindre la bourgeoisie à faire de bons choix, des choix patriotiques qui favoriseraient l'emploi et donc la situation matérielle des travailleurs. Ces positions nationalistes, anti-européennes, furent ensuite modérées par le Parti communiste au gré de ses alliances gouvernementales avec le Parti socialiste et selon qu'il se retrouvait dans l'opposition ou au contraire en position de défendre un gouvernement de gauche. Mais le Parti communiste, même en parlant d'une autre Europe à construire, n'en continua pas moins à entretenir la confusion dans la tête des travailleurs et à présenter les directives et les institutions européennes comme chargées de tous les maux et responsables des attaques subies par les travailleurs, dédouanant ainsi la bourgeoisie française et son principal serviteur, le gouvernement français. Ainsi, au moment du référendum sur le traité de Maastricht, en 92, on pouvait lire dans l'Humanité des protestations indignées quant au pouvoir que la création de l'euro donnerait à la Bundesbank, qui priverait la Banque de France de son pouvoir. Le Parti communiste allait même jusqu'à présenter cette dernière comme un service public. Certes, les travailleurs français n'ont aucun moyen de contrôle sur les décisions prises par les autorités financières européennes, pas plus que les travailleurs allemands d'ailleurs. Mais en formulant les choses de cette façon, le Parti communiste laissait entendre qu'ils en avaient plus sur la Banque de France et les francs qu'elle émettait. Aujourd'hui, le Parti communiste français a trouvé deux nouveaux chevaux de bataille. D'une part, le traité de stabilité, le fameux TSCG, je ne vous refais pas toute la... D'autre part, le traité transatlantique que l'Union européenne négocie en ce moment avec les États-Unis. Dans les deux cas, Patrick Le Yarrick, eurodéputé, dirigeant du PCF et directeur de l'Humanité, est intarissable et grandiloquent. Dans le livre qu'il a consacré au traité de stabilité, sobrement intitulé « L'Europe des peuples nous appelle », Le Yarrick multiplie les expressions d'angoisse. Avec un pareil traité, je le cite, « c'est la République qu'on assassine », car le traité consacrerait la mainmise des financiers sur l'Europe et ne serait rien de moins que la constitutionnalisation du capital. Certes, le traité de stabilisation monétaire, validé en octobre 2012 par le Parlement à majorité socialiste en France, défend une politique d'austérité budgétaire qui pèse sur les classes populaires. Mais aucun gouvernement, en France comme dans le reste de l'Union, ne l'a attendu pour mettre en œuvre l'austérité, pour tailler dans les services publics, pour débarrasser la bourgeoisie des moindres contraintes légales qui pouvaient représenter le plus petit obstacle à la guerre qu'elle mène aux travailleurs. Mettre en avant, comme seul objectif des luttes des travailleurs, l'opposition à ce traité et la tenue d'un référendum, comme l'ont fait à l'époque de sa discussion au Parlement le PCF, le parti de gauche de Mélenchon et la direction de la CGT, eh bien c'est une façon d'escamoter le rôle du gouvernement de gauche français, sa responsabilité dans le choix de défendre le grand patronat et les plans de suppression d'emplois qui se succédaient. Traité européen ou pas, la politique du gouvernement français consiste à faire payer à la population la dette publique provoquée par la crise du capitalisme. Cette politique n'a pas commencé avec ce traité et le capital n'a pas eu besoin d'être constitutionnalisé par ce traité ou par d'autres avant lui pour exercer sa dictature économique et politique, y compris dans le cadre de cette république sur le sort de laquelle le YARIC voudrait nous faire verser des larmes. Et lorsque le YARIC, tout en plaidant pour une Europe des peuples lui aussi, fustige ce qu'il appelle, je le cite, « les plans d'austérité pilotés par des organismes extérieurs au pays », ce n'est pas innocent. Il s'agit une fois de plus de mettre dans la tête de la classe ouvrière que l'ennemi le plus dangereux n'est pas sa propre bourgeoisie et le gouvernement national qui en défend les intérêts, mais les organismes extérieurs au pays. Quant au traité transatlantique actuellement discuté entre l'Union européenne et les États-Unis, le YARIC y voit la main d'un Dracula assoiffé de sang, assoiffé du sang des peuples européens. Cet accord de libre-échange, négocié depuis juillet dernier, entre l'Union européenne et les États-Unis, consistera à donner les mêmes avantages à tous les investisseurs, quelle que soit leur nationalité, sans discrimination dans l'aide apportée par les États. En clair, il s'agit pour les filiales des 3300 entreprises européennes présentes sur le sol américain et celles des 14400 entreprises américaines actives en Europe, d'avoir des moyens supplémentaires de faire des profits et de bonnes affaires, puisqu'elles pourraient attaquer tout État qui s'opposerait à leur projet. Le traité transatlantique donne lieu à de sourdes batailles entre trusts américains et européens. C'est à qui parviendra à imposer le plus de protectionnisme aux autres pour protéger sa chasse gardée, tout en profitant du maximum de liberté sur les marchés des autres. Dans la bouche de le YARIC, l'opposition à ce traité consiste à dénoncer, je le cite, « la braderie des intérêts nationaux et européens » et la destruction de notre industrie et de notre culture. Il faudrait donc protéger les trusts européens, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, et plus encore français, tant qu'à faire, des appétits des affreux Américains qui sont prêts, comble des horreurs, à sacrifier notre gastronomie. Je cite toujours le YARIC. Passons sur le fait que les dizaines de milliers de travailleurs licenciés ces dernières années, les familles qui n'arrivent plus à vivre de leurs revenus, ont depuis longtemps sacrifié la gastronomie, devenue inaccessible à leur budget. Mais en quoi la lutte contre l'accord transatlantique, la protection des trusts européens et français, protégerait-elle les travailleurs ou les consommateurs ? Réclamer des mesures protectionnistes, c'est-à-dire en dernier ressort se ranger derrière les intérêts de sa propre bourgeoisie, ne protégera en rien les travailleurs, ni contre les licenciements, ni même contre une dégradation de l'environnement ou des législations encadrant la production dans le domaine de l'alimentation, par exemple. Car rien ne garantit que les trusts européens soient plus vertueux en la matière. Le seul moyen pour les travailleurs de peser sur ce qui est produit, sur le respect de la santé et de l'environnement, et de combattre le fait que les travailleurs soient la variable d'ajustement sacrifiée pour sauvegarder les profits, c'est qu'ils exercent leur contrôle, c'est que l'ensemble de la population soit en mesure d'exiger un droit de regard sur le fonctionnement de l'économie. Et cela concerne autant les travailleurs américains que les travailleurs européens. Dans le cadre du continent européen, comme à l'échelle mondiale, c'est une frontière de classe qui sépare les intérêts des exploiteurs et des exploités, et pas celle que nous désignent les chantres du protectionnisme entre les mauvais trusts américains et les bons européens. Aujourd'hui, un certain nombre de politiciens se disent en faveur de mesures protectionnistes et les présentent comme une protection, justement, pour les travailleurs. C'est avant tout de la propagande électorale dans la situation actuelle, car la bourgeoisie française n'y a pas intérêt. Mais c'est un poison et un leurre pour les travailleurs. Car si le protectionnisme protège quelque chose, ce sont les intérêts de la bourgeoisie. Il renforce les moyens de la bourgeoisie nationale pour s'opposer à la concurrence des autres et a pour effet d'aggraver la guerre économique, avec le risque de déboucher sur la guerre tout court, suivant le scénario qui fut celui des années 30. Loin d'être une solution à la crise, le protectionnisme constitue une mesure qui l'aggrave, qui la porte à son paroxysme, tant la bourgeoisie est incapable de résoudre autrement que par la crise et la destruction les contradictions de son propre système économique. Et comme toutes les politiques de la bourgeoisie, le protectionnisme, il serait payé par les classes populaires. Tout comme la compétitivité, que le gouvernement présente comme une mesure nécessaire pour recréer des emplois, le protectionnisme serait une autre justification pour imposer des sacrifices aux classes populaires au nom de la guerre économique à gagner pour la sauvegarde des entreprises françaises. Alors libre-échange ou protectionnisme, ce sont deux politiques possibles pour la bourgeoisie. Aucune des deux ne protège les travailleurs, et ceux qui prétendent représenter leurs intérêts en vantant les mérites de l'une plutôt que de l'autre sont des ennemis politiques. L'Union européenne est le résultat des marchandages capitalistes. Elle n'est ni véritablement européenne, ni complètement unie. Les institutions européennes sont là pour défendre les intérêts des possédants. Mais les États nationaux le sont tout autant, et les travailleurs n'ont pas à choisir entre l'une ou l'autre de ces options, toutes deux faites par et pour la bourgeoisie. Le problème se pose à un autre niveau, celui de savoir si la bourgeoisie conservera le pouvoir ou si la classe ouvrière retrouvera confiance en ses propres forces et en sa capacité à prétendre à la direction de la société. En plus de 50 ans, la bourgeoisie a montré qu'elle était incapable, ne serait-ce qu'à l'échelle d'un bout de continent, de mener à bien la simple opération de rationalisation que représenterait l'unification de l'Europe. C'est incompatible avec ses intérêts particuliers et avec le fonctionnement de son économie. Ce n'est pas le cas pour la classe ouvrière. Elle a la capacité de débarrasser non seulement l'Europe, mais le monde entier, de frontières nationales devenues des cadres trop étroits pour une économie dont les échanges et la production sont mondialisés. Aujourd'hui, le rapport de force est défavorable à la classe ouvrière, en Europe comme partout. En Europe comme partout, où c'est la bourgeoisie qui mène une guerre de classe d'autant plus féroce qu'elle cherche à préserver ses profits des retombées de la crise de son propre système. Et au niveau politique, la désorientation pèse également de tout son poids. Des décennies de trahison de la part de la social-démocratie d'abord, des staliniens ensuite, ont eu pour effet d'obscurcir les consciences et notamment d'occulter complètement l'idée que la seule issue possible pour les travailleurs, le seul moyen de s'émanciper pour les prolétaires est d'agir en tant qu'une seule et même classe ouvrière aux intérêts communs par-delà les frontières. En 1914, Trotsky, dans un texte où il parlait des objectifs que le prolétariat devait se fixer alors qu'éclatait la Première Guerre mondiale, s'exprimait ainsi, je cite, « Pour le prolétariat européen, il ne s'agit pas de défendre la patrie nationaliste qui est le principal frein au progrès économique. Il s'agit de créer une patrie bien plus grande, les républiques des États-Unis d'Europe, première étape sur la voie qui doit mener aux États-Unis du monde. À l'impérialisme sans issue du capitalisme, le prolétariat ne peut qu'opposer une organisation socialiste. Pour résoudre les problèmes insolubles posés par le capitalisme, le prolétariat doit employer ses méthodes, le grand changement social. Eh bien, ce qui était vrai il y a un siècle l'est encore plus aujourd'hui et de manière encore plus urgente. Car entre-temps, les contradictions de la société capitaliste ont conduit à deux guerres mondiales et à de profonds reculs économiques. Le développement capitaliste, même dans sa version de plus en plus sénile, à bout de souffle, en proie à une crise profonde à laquelle il ne trouve pas d'issue, a rendu la planète entière encore plus interdépendante, unifiée par les mêmes exploiteurs d'un continent à l'autre. Dans ce cadre, les seules unions proposées par les gouvernements des principales puissances mondiales, de l'Union européenne à l'Union euro-asiatique, en passant par les multiples accords qui associent partiellement certaines parties du monde, sont des accords entre requins, dont les intérêts sont à l'opposé de ceux de l'humanité. La classe ouvrière est la seule classe sociale qui puisse mettre derrière ces mots d'union, de coopération, un contenu véritable. L'économie capitaliste a développé les moyens de résoudre de nombreux problèmes qui se posent à l'humanité sans pouvoir être réglés dans le cadre anarchique de la société capitaliste. Libérée des chaînes de la production capitaliste, l'humanité pourrait mener une politique économique supérieure à celle de la bourgeoisie, forcément au-delà des cadres nationaux. La société pourrait utiliser la formidable capacité productive développée par l'industrie capitaliste, mettre en place une véritable libre circulation des produits, des informations et des hommes, non pas dans les limites nécessaires au profit privé de trusts bourgeois en concurrence entre eux, mais en fonction de la satisfaction des besoins de l'ensemble de l'humanité et dans le souci de rationaliser au mieux la production à l'échelle du globe pour produire en quantité suffisante et sans gaspiller ni le travail humain ni les ressources de la planète. Ce programme, c'est le programme communiste, le programme politique que le prolétariat est le seul à pouvoir défendre. Il ne peut se réaliser qu'à l'échelle de la planète, et il est le seul à pouvoir offrir une alternative à la société capitaliste, empêtrée dans ses propres contradictions, qui nourrit la montée du nationalisme, du racisme, qui engendre la barbarie aux quatre coins de la planète, et la généralisera demain si la crise de son économie ne trouve pas d'autre issue. La campagne électorale européenne à venir nous donne l'occasion de réaffirmer notre internationalisme, notre conviction que la classe ouvrière, à l'échelle de l'Europe comme à l'échelle internationale, forme un tout, une seule et même classe sociale, porteuse de l'avenir, de l'humanité et du monde.